play as time goes by.
Bienvenue dans l'histoire qui raconte notre histoire.
Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon.
On reste à peu près au même niveau sur l'échelle du dégueu.
C'est la première fois qu'on traite d'atmosphère.
Brisons nos codes, brisons nos idées reçues.
Vers l'infini et au-delà.
Compteur d'ondes.
À travers le temps et l'espace, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, Des Mesures vous propose de plonger dans la complexité des échelles. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, Sonia vous fait découvrir les virus sous un autre jour.
Bonjour à tous. Je m'appelle Sonia et je suis passionnée par les maladies. Pas très ragoûtant dit comme ça, mais si, je vous assure, le sujet mérite qu'on s'y penche le temps d'une chronique. Plus précisément, j'étudie les virus, ces petites bébêtes sympathiques comme tout, qui peuvent vous donner la grippe, le sida, l'hépatite ou la dengue. Toujours pas très attiré ? Ça va venir, promis. Et comme nous n'avons peur que de ce que nous ne connaissons pas, intéressons-nous de plus près à ce qu'est un virus. Tout commença en 1892, quand le biologiste russe Dmitri Ivanovski essaya d'isoler l'agent infectieux responsable de la maladie de la mosaïque du tabac. Pour cela, il broya des feuilles malades et filtra le tout sur un filtre initialement conçu pour retenir les bactéries, petites cellules responsables de nombreuses maladies, comme la peste par exemple. À sa grande surprise, le broyat ainsi filtré resta infectieux, suggérant que l'agent responsable de la maladie était plus petit qu'une bactérie. Ivanovski en déduisit que la maladie était transmise par de petites molécules appelées toxines, passant ainsi à côté de la découverte du virus de la mosaïque du tabac. Ce n'est que 6 ans plus tard que le Hollandais Martinus Beijerinck reproduisit la même expérience à peu chose près et démontra cette fois-ci que l'agent infectieux pouvait se multiplier chez son hôte. Ce n'était donc pas une toxine. Pour qualifier cet agent, il utilisa le doux nom de Contagium Virum Fluidum, autrement dit un agent ultra-filtrable, un virus. Pourtant, les virus n'ont pas attendu d'être découverts pour créer des épidémies et être combattus. Le terme même de virus, venin en latin, fut utilisé dès l'Antiquité pour qualifier un agent infectieux induisant une maladie, même si l'agent en question n'avait pas encore été identifié. En effet, les pathologies virales étaient déjà décrites à cette époque, et notamment la variole, dont certaines momies de l'Égypte antique portent les stigmates. Le premier vaccin antiviral fut mis au point au XVIIIe siècle, bien avant la découverte du fameux agent ultra-filtrable. En 1796, M. Jenner, médecin de campagne anglais, remarque que les fermiers exposés aux vaches atteintes par le virus de la vaccine développaient quelques pustules, semblables à celles obtenues après infection par la variole, puis guérissaient et ne développaient plus la maladie. Il eut alors l'idée lumineuse d'injecter le pus de ces pustules contenant la vaccine au meilleur cobaye qu'il a pu trouver, un orphelin. Bon, il n'était pas trop au point niveau réglementation éthique à l'époque. L'enfant développe une forme bénigne de la maladie, puis se rétablit rapidement. Jenner infecte ensuite le gamin avec un authentique virus de la variole prélevé sur un patient décédé. Il n'était vraiment pas au point niveau éthique. Et là, au miracle, le môme ne développe pas la maladie et est même protégé à vie, ce qui est quand même la moindre des choses vu ce qu'il a dû endurer. Jenner venait d'inventer le premier vaccin, sucrant ainsi l'exclusivité à M. Pasteur, qui inventa tout de même par la suite le vaccin contre le virus de la rage. La nouvelle fut bien accueillie dans un monde où la variole faisait rage, justement, et tuait des millions de personnes, dont notre Louis XV national. Surtout qu'à l'époque, les traitements préventifs, dits de variolisation, allaient de sniffer des broyats de croûte de varioleux à s'injecter directement leur pu avec l'espoir de ne pas mourir de la maladie que l'on attrapait après. Bon, vous me direz, entre du pu de varioleux et du pu de vacciné, on reste à peu près au même niveau sur l'échelle du dégueu. N'empêche, le procédé fut efficace, car l'OMS lance en 1959 une grande campagne de vaccination et déclare le 8 mai 1980 l'éradication de la variole, qui fut la maladie la plus dévastatrice au monde après la peste. Les seules souches de variole sont maintenant conservées en laboratoire, notamment par les États-Unis et la Russie, qui ont refusé de s'en débarrasser après la guerre froide. En effet, la variole fut déjà utilisée par le passé à des fins de bioterrorisme. notamment au XVIIIe siècle, où des couvertures contaminées ont été distribuées par les Anglais aux Indiens d'Amérique pour décimer la population.
C'est un message sombre, une alerte inquiétante. Bill Gates appelle la communauté internationale à se préparer au plus vite à une épidémie mondiale. Le créateur de Microsoft s'est exprimé hier lors de la conférence de sécurité qui se tient à Munich. Il estime que les États doivent investir dans la recherche pour être capables de créer des vaccins en quelques mois. Pour Bill Gates, une épidémie à l'échelle de la planète est probable dans les années à venir et elle pourrait être l'œuvre de terroristes.
Nous sommes confrontés à une nouvelle menace. La prochaine épidémie pourrait voir le jour sur l'ordinateur de terroristes qui chercheraient par manipulation génétique à créer une version synthétique du virus de la variole ou une souche contagieuse et hautement mortelle de la grippe. Le fait est que nous nous mettons en danger en ignorant le lien entre notre sécurité et la sécurité internationale. Qu'il s'agisse d'un virus né dans la nature ou créé par un terroriste, les épidémiologistes ont montré qu'un virus se transmettant dans l'air tuerait 30 millions de personnes en moins d'un an. Mais il est assez probable que cela se produise dans les années à venir.
La variole n'est pas le seul virus à avoir impacté les civilisations humaines. Entre 1918 et 1920, la grippe espagnole fait des ravages en tuant entre 20 et 40 millions de personnes dans le monde entier. Le VIH, responsable du sida, est à ce jour la plus importante pandémie touchant l'humanité, en ayant infecté environ 40 millions de personnes en 25 ans. Plus récemment, l'épidémie d'Ebola de 2014 en Afrique de l'Ouest fut la plus importante depuis la découverte du virus en 1976. Les virus nous suivent donc depuis longtemps, à travers les âges et les civilisations. Mais qu'est-ce que c'est qu'un virus au final ? Comme Bejirink l'a vu, c'est petit, très petit même, entre 10 et 400 nanomètres, c'est-à-dire quelques centaines de fois plus petit qu'une cellule humaine, et donc une dizaine de millions de fois plus petit qu'un être humain. Avec une taille aussi faible, l'optimisation de l'espace est nécessaire. Un virus, c'est donc, schématiquement, un génome viral ambulant, une sorte de livre d'instructions permettant de produire de nouveaux virus, le tout entouré d'une sorte de coquille appelée la capside. Avec parfois en plus une enveloppe de gras pour bien emballer tout ça et quelques molécules supplémentaires, qui jouent divers rôles dans la biologie du virus. Et c'est tout. Il est tellement petit qu'il a besoin d'aide pour se répliquer, c'est-à-dire se multiplier pour prospérer. Cette aide précieuse lui est fournie par l'une des machineries les plus perfectionnées qui soit, la cellule. Pour cela, il doit d'abord entrer dans la cellule, pour ensuite utiliser les fonctions cellulaires afin de produire de nouveaux virus. Ce mécanisme s'appelle l'infection. Les nouveaux petits virus sortent ensuite de la cellule et infectent d'autres cellules, et ainsi de suite. L'infection se répand ainsi dans l'organisme. Mais l'organisme a appris à mettre en place tout un éventail de stratégies pour combattre les infections virales. Comme empêcher le virus d'entrer dans les cellules, tuer les cellules infectées avant qu'elles ne produisent d'autres virus, ou encore détruire le virus directement dans la cellule. Pourtant, la plupart de ces petites bêtes échappent à ces mécanismes de l'immunité et réussissent à persister malgré tout. Parfois, l'organisme gagne et le virus est éliminé. Ou alors le virus l'emporte et l'organisme dépérit. Cependant, la balance peut être maintenue de nombreuses années entre l'organisme qui essaye d'éliminer le virus et le virus qui résiste malgré tout, sans prendre le dessus. Car un virus, ce n'est pas forcément un pathogène agressif qui tue tout le monde sans merci. De nombreuses stratégies virales existent, et toutes n'incluent pas la mort rapide de l'hôte, comme c'est le cas par exemple pour Ebola. En effet, certains virus persistent parfois de nombreuses années chez leur hôte sans produire de dommages importants. C'est le cas notamment des virus herpès. Vous savez, ceux qui peuvent être responsables de l'apparition du vilain bouton de fièvre du stress pré-exam. Pour info, le fautif porte le sobriquet de herpès simplex virus. Mais il existe d'autres virus de la famille des herpès, comme le virus Epstein-Barr qui infecte 80 à 90% de personnes dans le monde. Il est responsable, notamment, de la mononucléose infectieuse, Et estimez-vous heureux si vous le portez déjà, car la maladie est bien plus bénigne attrapée enfant qu'à l'âge adulte. Ces virus peuvent cohabiter pacifiquement avec un hôte durant toute sa vie, pourvu que l'hôte n'ait pas de problème immunitaire. Mais d'autres virus persistants, moins sympathiques, peuvent induire des maladies autrement moins rigolotes que la mononucléose. C'est le cas notamment du VIH qui, comme vous le savez, peut provoquer le sida souvent plusieurs années après l'infection. Ou encore du virus de l'hépatite C, qui peut provoquer des cancers du foie. Tous ces virus induisent des infections dites chroniques, c'est-à-dire qui durent dans le temps. Par opposition, les infections aiguës, induites par exemple par la rougeole, Ebola ou la grippe, se soldent par la destruction rapide du virus ou de l'hôte.
Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis seul sans toi, je suis laide sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade.
Mais comment combattre des virus si différents les uns des autres? C'est là l'un des grands problèmes posés en virologie. En attendant de trouver des remèdes miracles universels, les stratégies thérapeutiques actuelles sont souvent dirigées contre un virus en particulier ou visent à activer de manière généralisée le système immunitaire, ce qui induit de nombreux effets secondaires. Pourtant, le virus libre n'est pas très résistant en dehors de son hôte, sauf certains virus comme la variole, une vraie cochonnerie qui peut survivre des semaines dans de l'eau contaminée par exemple. Mais bon, en général, un petit coup de javel ou d'alcool suffit à bousiller beaucoup de nos amis viraux. Pourtant, une fois dans la cellule, le virus se multiplie. Et même si beaucoup sont détruits par le système immunitaire, il suffit de quelques virus survivants pour que l'infection continue. De plus, la multiplication du génome viral peut y permettre l'apparition de mutations génétiques. Certaines vont induire la mort de la particule virale qui les porte, mais d'autres vont pouvoir donner un avantage au virus, comme par exemple la capacité de résister à un médicament. C'est pour contrer ces mécanismes que le traitement contre le VIH cible au moins trois étapes de la multiplication virale. Ainsi, le virus aura plus de mal à développer une résistance à trois médicaments en même temps. Une autre stratégie de certains virus est d'intégrer leur génome au génome de leur hôte sans produire de nouveaux virus, et restant ainsi invisibles au système immunitaire. Bref, nos amis les virus débordent de ressources pour persister chez leur hôte, rendant le combat contre les infections virales très difficile. Il est néanmoins possible de tirer parti de ces machineries très perfectionnées pour développer des outils scientifiques et thérapeutiques innovants. Pour cela, les scientifiques ont exploité à leur avantage des capacités du virus, comme par exemple la possibilité de cibler un type cellulaire particulier, d'intégrer des gènes étrangers dans une cellule, ou même de détruire certaines cellules. Il est par exemple déjà possible de corriger des mutations génétiques en réapportant le gène normal, sain, chez des patients grâce à un virus, ou encore à améliorer la destruction de cellules cancéreuses grâce à l'expression de gènes suicides. Beaucoup de ces thérapies sont actuellement à l'étude chez l'homme, et certaines même déjà sur le marché, et pourraient révolutionner le combat contre les cancers ou les maladies génétiques par exemple. Mais comme vous pouvez vous en douter, ces approches doivent être extrêmement contrôlées pour éviter les possibles effets secondaires d'un traitement par un virus, même modifié. De plus, on parle quand même de modification génétique chez l'homme, ça peut ouvrir à des dérives, non? Me direz-vous. Et vous avez raison, cet aspect est également à surveiller étroitement, avec l'arrivée de ces nouvelles thérapies, mais également d'autres outils de modification génétique, comme la technique CRISPR, qui rend la manipulation du génome ridiculement simple à mettre en œuvre. Moins risqué, il existe également des thérapies qui utilisent les virus pour combattre les infections bactériennes. Elles utilisent pour cela les propriétés de bactériophages, des virus étant capables d'infecter des bactéries et pouvant induire leur destruction. Cette technique, appelée la phagothérapie, n'est pas nouvelle et faisait fureur dans les années 1920. Puis les antibiotiques sont arrivés et la phagothérapie sombra dans l'oubli. Mais l'apparition de résistance des bactéries aux antibiotiques est en train de dépoussiérer cette approche, qui commence à être réenvisagée comme une alternative aux antibiotiques. Nous l'avons vu, les virus ne sont pas des pathogènes strictement humains. De nombreux organismes peuvent en effet être infectés par des virus, comme les plantes, les bactéries, voire même d'autres virus. En effet, il a été récemment découvert qu'un petit virus répondant au doux nom de Spoutnik est capable d'infecter des virus géants, plus gros que certaines bactéries. Ces virus géants, comme le mimivirus, possèdent un métabolisme propre, pouvant ressembler à celui d'une bactérie, et remet en question la classification des virus dans l'arbre du vivant. Mais ceci fera peut-être l'objet d'une autre chronique. Malgré les avancées scientifiques phénoménales en virologie ces dernières années, le monde complexe des virus comporte encore de très nombreuses inconnues. Certaines maladies virales ne connaissent toujours pas de traitement, notamment à cause du haut potentiel d'adaptation de beaucoup de virus. En effet, leur très étroite relation avec leurs organismes hôtes leur ont permis d'évoluer en parallèle, pour optimiser leur propagation ou leur survie. On raconte même que certaines portions de notre propre génome proviennent de virus ancestraux, qui ont fusionné leur génome au nôtre il y a fort longtemps. Nous en combattons certains, mais ils savent se défendre, parce qu'ils nous connaissent mieux que nous ne les connaissons. Et nous les connaissons peu. Nous avons à peine effleuré la diversité monumentale de leur grande famille. Beaucoup nous reste à découvrir, car en science, on ne voit que ce que l'on regarde. Et ce n'est pas la découverte il y a quelques mois de quelques 1500 nouveaux virus qui me contredira. Enfin, j'espère vivement que toutes ces histoires, si elles ne vous ont pas fait perdre l'appétit, vous auront tout de même donné le goût de vous intéresser de plus près à ces petites bêtes malicieuses qui nous sont attachées pour le meilleur et pour le pire. Closed my door, forgot my key, missed my bus in the pouring rain. It's been the usual Sunday with a flu. And I just can't get over you. Burnt my toast and lost your number. Cut my finger, spilled my beer. It's been the usual Sunday with the flu. And I just can't get over you. I put your stockings in my purple boots. What if I don't get over you?
C'était Compteur d'ondes. Réagissez sur Facebook et Twitter.
Retrouvez-nous et nos chroniques sur transistor.fr et notre site web desmesures.jimdo.com. Merci de votre écoute et à bientôt.
Compteur d'ondes.